Donc nous écoutons maintenant les lectures qui commenceront par une première lecture dans le livre de Josué, au chapitre 19 et au verset 40.
Oui, Josué 19, verset 40, il est question de la part qui est échue à tribu de Dan. Le septième lot qui sortit fut pour la tribu des fils de Dan selon leur clan. La frontière de leur héritage était Tsoréa, Eshtaol, Irshemesh, Shalabin, Ayalon, Yitla, Elon, Timnata, Ekron, Elteke, Gibeton, Balat, Yehud, Beneberak, Gatrimon, les eaux de Yarkon et Rakon avec le territoire vis-à-vis de Jaffa. Le territoire des fils de Dan leur échappait. Alors les fils de Dan montèrent et combattirent contre les Shem. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y établirent et l'appelèrent Dan, du nom de Dan leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan, selon leur clan, ces villes-là et leurs villages. Puis, dans le livre des Juges, nous y arrivons, mais déjà au chapitre 1, un verset, le verset 34 du chapitre 1. Les Amoréens repoussèrent dans les montagnes les fils de Dan et ne les laissèrent pas descendre dans la vallée. Et dans le même livre, cette fois, chapitre 17, depuis le verset 1 jusqu'à 18, verset 6. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm, nommé Mica. Il dit à sa mère, « Les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour laquelle tu as fait des imprécations, même à mes oreilles, voici que cet argent est chez moi. C'est moi qui l'avais pris. » Et sa mère dit, « Béni soit mon fils par l'Éternel. » Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent, et sa mère dit, « Je veux consacrer de ma propre main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une statue et une image en métal fondu. C'est ainsi que je te le rendrai. » Et il rendit l'argent à sa mère. Sa mère prit 200 cycles d'argent qu'elle donna au fondeur. Celui-ci en fit une statue et une image en métal fondu. On les plaça dans la maison de Mica. Ce Mica eut ainsi une maison de Dieu. Il fit un éphod et des théraphimes, et il investit l'un de ses fils qui lui servit de sacrificateur. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, du clan de Juda. Il était lévite et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour aller séjourner là où il pourrait. En poursuivant son chemin, il arriva dans les monts d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mica. Mica lui dit, « D'où viens-tu ? » Il lui répondit, « Je suis lévite de Bethléem de Juda, et je voyage pour aller séjourner là où je le pourrai. » Mica lui dit, « Reste avec moi. Deviens pour moi un père et un sacrificateur, et je te donnerai 10 cycles d'argent par année, un assortiment de vêtements et ton entretien. » Et le Lévite entra. Il se décida ainsi à rester avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Mica investit le Lévite, et ce jeune homme devint son sacrificateur et demeura dans sa maison. Et Mica dit, « Maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce Lévite pour sacrificateur. » En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. En ce temps-là aussi, la tribu des Danites se cherchait un héritage pour s'y établir, car jusqu'à ce jour, il ne lui était pas échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Les fils de Dan envoyèrent de leur clan 5 vaillants hommes du milieu d'eux, de Tsoréa et d'Eshtaol, pour explorer le pays et pour l'examiner. Ils leur dirent, « Allez examiner le pays. » Ils arrivèrent dans les monts d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mica et y passèrent la nuit. Comme ils étaient près de la maison de Mica, ils remarquèrent la voix du jeune Lévite, firent un détour et lui dirent « Qui t'a amené ici? Que fais-tu dans ce lieu? Qu'as-tu à y faire ?» Il leur répondit « Mika a fait pour moi telle et telle chose. Il me donne un salaire et je suis devenu son sacrificateur. » Ils lui dirent « Consulte Dieu, afin que nous sachions si le voyage que nous avons entrepris aboutira. » Et le sacrificateur leur répondit « Allez en paix, l'Éternel vous accompagne dans le voyage que vous allez entreprendre. » Et au chapitre 18, nous lisons la fin, les versets 27 à 31. Ils enlevèrent ainsi ce qu'avait fait Mika et emmenèrent le sacrificateur qu'il avait. Ils tombèrent sur Laïch, sur un peuple tranquille et confiant. Ils le frappèrent du tranchant de l'épée et brûlèrent la ville. Personne ne la délivra, car elle était éloignée de Sidon et n'avait de relation avec personne. Elle était dans la vallée qui s'étend vers Beth-Rehob. Les fils de Dan rebâtirent la ville, et ils y habitèrent. Ils donnèrent à la ville le nom de Dan, d'après le nom de Dan, leur père, qui était né à Israël. Mais la ville s'appelait auparavant Laïch. Les fils de Dan dressèrent pour eux la statue, et Jonathan, fils de Guershom, fils de Manassé, lui et ses fils furent sacrificateurs pour la tribu des Danites jusqu'à l'époque de la déportation du pays. Ils établirent pour eux la statue qu'avait faite Mika tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo. Et puis, un dernier texte dans le Nouveau Testament, dans une épître de Jean, la première, 1 Jean 5, les versets 20 et 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles.
Pour faire ce qui est bon aux yeux de l'Éternel, il faut qu'il soit notre roi et que nous soyons soumis à tout ce qu'il dit. De même, pour comprendre ce qui vient de l'Éternel, il faut que l'Esprit soit roi de nos pensées et de notre cœur. Et nous comptons ce matin à nouveau sur l'œuvre de l'Esprit afin que nous comprenions cette parole. Dans ce livre des juges que nous étudions, nous avons vu ensemble qu'il y avait deux introductions au départ, du livre des juges. Deux introductions et ensuite sept cycles de juges. Et le livre se termine par deux appendices, comme un miroir en fait. Et ces deux appendices nous racontent des récits historiques qui se sont passés pendant la période des juges. Ça ne s'est pas passé après Samson, le dernier juge qu'on a vu, ça s'est passé pendant la période des juges, même sûrement assez au début. Parce que dans le deuxième appendice, par exemple, il est question de Phinéas, le fils d'Éléazar, petit-fils d'Aaron, qui était déjà dans le peuple et actif dans le peuple avant même qu'ils entrent dans le pays. Et dans le premier appendice, qui est l'objet du jour, il est question de Jonathan, le fils de Guershom, le fils de Moïse. Et cela ne devrait donc pas être des centaines d'années après l'entrée dans le pays. Aujourd'hui, nous sommes face à ce premier appendice. Mais avant de nous y plonger, nous allons chercher à comprendre pourquoi nous avons ces appendices qui sont répugnants ici à la fin de ce livre des juges. En fait, durant tout le livre des juges, il était dit que le peuple d'Israël faisait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais très peu d'explications étaient données sur ce qu'il faisait réellement. Et certains pouvaient même se demander, mais est-ce que Dieu n'exagérait pas en corrigeant ce peuple ? Et l'auteur des juges prend donc le temps, avec ses deux appendices, de décrire des faits qui indique ce que voulait dire faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'un parlera plus particulièrement de la décadence et du chaos religieux, tandis que le deuxième appendice montrera la décadence et le chaos moral. Et plus nous avançons dans la lecture, plus le dégoût nous envahit. Dans les deux cas, la racine du problème est la même. Et en fait, ce sera le seul commentaire de l'auteur du livre sur ces deux récits qu'il ne va pas évaluer. Il donne simplement la racine du problème qui est répétée 4 fois. 2 fois de façon complète et 2 fois de façon résumée. Voici la racine du problème. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. En fait, cette phrase fait écho à faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Parce que faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, c'est faire ce qui est bon aux yeux du peuple pécheur. C'est faire ce qui semble bon lorsque l'Éternel n'est pas roi. Comprenez donc bien, dans Juges 17 à 21, vous lisez des façons de vivre qui correspondent à ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Dans les chapitres 17 à 21, vous lisez des façons de vivre qui correspondent à ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ce sont des échantillons de ce qui arrive lorsque chacun fait ce qui lui semble bon, lorsque l'Éternel n'est pas accepté comme roi qui définit ce qui est bien et ce qui est mal. Donc ce sont des échantillons de ce qui arrive lorsque chacun fait ce qui lui semble bon, lorsque l'Éternel n'est pas accepté comme roi qui définit ce qui est bien et mal. Si le reste des juges, par ailleurs, a parlé de personnes appelées à délivrer le peuple, les juges, Gédéon, Jephté, Samson, etc., ces deux appendices parlent de ceux qui auraient été censés être les bergers du peuple, les conducteurs, les guides. Il s'agit des Lévites, la tribu mise à part par l'Éternel, qui était censée enseigner, expliquer la loi et être au service du sanctuaire du divin roi. Voilà pourquoi nous retrouvons dans chaque appendice un Lévite. C'est pas par hasard. Le problème principal est donc que le peuple ne se laisse pas diriger par un roi, le seul qui en avait le droit étant leur créateur et leur rédempteur. C'est pourquoi j'ai appelé cette prédication « Y a-t-il un roi sur ta vie ?» Y a-t-il un roi sur ta vie ? Te laisses-tu diriger et qui est-ce qui te dirige ? Les 3 entités dans ce texte nous montrent les 3 points que nous allons développer pour nous aider à comprendre ce texte. Première entité, c'est la maison de Mika. La maison de Mika nous occupera pour le premier point que j'ai intitulé « L'amour de l'argent et la superstition détournent du roi ». Ensuite, le Lévite occupera notre deuxième point que j'intitule « L'opportunisme égoïste détourne du roi ». Et troisièmement, la tribu de Dan qui occupera notre troisième point intitulé « La lâcheté et la recherche de facilité détournent du roi ». Allons ensemble à la montagne d'Éphraïm. Après Gédéon et Jephté, nous savons que cette tribu est imbue d'elle-même. Donc ce n'est pas par hasard que c'est là qu'un premier échantillon est donné pour illustrer comment chacun faisait ce qui lui semblait bon en n'acceptant pas l'Éternel comme roi d'Israël. Nous y trouvons un homme nommé Mika. Notre premier point, l'amour de l'argent et la superstition détournent du roi. L'amour de l'argent et la superstition règnent dans la famille de Mika. En fait, on pourrait lire le texte de Paul dans 1 Timothée 6 qui explique ce que ça signifie. Enfin, je vais vous le lire d'ailleurs. 1 Timothée 6, les versets 6 à 10, où il est dit « Certes, c'est une grande source de gain que la piété si l'on se contente de ce qu'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent des hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. J'ai l'impression que ça décrit un peu Mika ici. Il n'y a aucun amour pour le roi éternel qui est manifesté dans l'histoire de Mika, mais de l'amour pour l'argent. L'histoire commence par nous raconter un vol. Un fils vole sa mère. Et une grande somme. D'ailleurs, c'est la même somme que les ducs philistins ont donnée à Dalila pour livrer Samson. L'amour de l'argent a conduit Mika à violer le 5e et le 8e commandement de la loi du roi divin. L'amour de l'argent a conduit Mika à violer le 5e et le 8e commandement de la loi du roi divin. Il ne respecte pas ses parents et il prend ce qui n'est pas à lui. Sa mère, par manipulation, va utiliser la superstition de Mica pour le faire avouer, hein, en parlant d'une malédiction sur celui qui aurait pris l'argent. Elle dit devant lui, hein. Et Mica avoue. Et lorsqu'elle retrouve son argent, elle dit qu'elle va le consacrer à l'Éternel. Alors juste en passant, pour annuler la malédiction, la mère de Mica va prononcer une petite bénédiction. Ah ben tout à coup, ben, c'est son fils donc... Mais c'est pas ainsi que le roi divin a indiqué comment être libéré de la malédiction. C'est en se repentant et en assumant les conséquences de ses actes. Et dans la loi de Dieu, dans l'Ancien Testament, la loi demandait un sacrifice, une amende et une restitution pour un vol. Ce n'est pas en disant une petite bénédiction que l'on est libéré de la malédiction. C'est de la superstition. Comprenez ? Ce n'est pas, encore maintenant, ce n'est pas en disant une petite bénédiction qu'on est libéré de la malédiction. Ça, c'est de la superstition. L'amour de l'argent de la mère va la conduire pour finir à ne donner qu'un cinquième de la somme qu'elle avait prévu consacrer pour Dieu. Comment ne pas penser à Ananias et Saphira qui disent qu'ils donneront le prix total alors qu'ils ont gardé une part. Ce n'est pas tout. La mère de Mica consacre l'argent à Dieu en faisant une statue et une image taillée. Deux termes qui ne sont pas sans faire référence au deuxième commandement, de manière assez claire, ce deuxième commandement du roi divin qui n'est pas obéi. Car elle faisait ce qui lui semblait bon, en disant que si elle consacrait de l'argent à Dieu, ben elle serait bénie. Mica, qui reçoit la statue et l'image, fait une maison de Dieu. Il fait une éphode, qui normalement doit être portée uniquement par les sacrificateurs, le souverain sacrificateur. Et des téraphimes, ce sont des petites idoles, lié à de la sorcellerie, selon 1 Samuel 15, 23. Mais quand Mica peut engager un lévite, un vrai lévite pour son sacrifice personnel, il est sûr que l'Éternel va le bénir. Il y a beaucoup de sarcasme dans ce texte. Hein. Donc, regardez au chapitre 17, verset 13. Hein. Et Mica dit, « Maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien parce que j'ai ce lévite pour sacrificateur. » Un lévite qui n'était même pas descendant d'Aaron d'ailleurs, ne pouvait pas être sacrificateur. En fait, Mica ne suit pas les ordonnances de l'Éternel sur beaucoup de points. Il fait son sanctuaire personnel. Hein. Mais au moment où il s'approche d'un élément qui ressemble à ce que Dieu veut, eh bien, c'est l'exploit. Et Dieu doit le bénir parce qu'il a fait un grand effort. Quelle tragédie. La maison de Mica veut adorer Dieu en rejetant des parties de sa révélation. La maison de Mica veut adorer Dieu en rejetant des parties de sa révélation. Et encore aujourd'hui, on peut entendre des phrases telles que « Notre société ne supporte pas cette idée. Il faut l'enlever. Nous devons avoir un Dieu qui correspond à la sensibilité de notre société. » Ça, c'est être de la maison de Mica, hein, les amis. Cela signifie remodeler Dieu pour le rendre acceptable à notre société et à notre cœur pécheur, au lieu de laisser Dieu remodeler et purifier notre cœur et notre société. Cela pose un problème de base d'ailleurs aussi. Si Dieu est un Dieu personnel et réel, il peut nous contredire et nous dire non. Celui qui adore un Dieu qui ne dit jamais non, avec qui il ne lutte jamais, adore un Dieu qui est certes confortable, mais qui n'est certainement pas un Dieu qui existe. Et si certains rejettent une partie de la révélation de Dieu, d'autres vivent dans l'hypocrisie de la mère de Mica, qui dit tout consacrer, mais qui ne donne qu'une partie. Comme Ananias et Saphira, comme on l'a dit tout à l'heure. Par exemple, ils se consacrent à Dieu le dimanche matin. Ils prennent la scène, qui est une illustration d'une consécration totale hein, de sa vie. Et ensuite, ils agissent au travail comme les non-chrétiens, sans règles, sans grâce, avec paresse et ne cherchant que ses intérêts. La consécration du dimanche ne dure que le dimanche, et encore, que le matin. Quelle tragédie. Alors que notre Sauveur s'est consacré totalement. Il a même choisi de se limiter, de devenir homme, nature à laquelle il est lié maintenant éternellement, afin de nous donner accès auprès du Père. Ne voulons-nous pas vivre dans la réconciliation avec Dieu le dimanche matin, mais aussi tous les autres jours de la semaine? Ou bien voulons-nous venir uniquement à la réconciliation avec Dieu le dimanche matin et le reste du temps vivre comme bon nous semble? Vous savez, le but de la religion, c'est que Dieu soit à notre service. C'est le but de la religion. C'est que Dieu soit à notre... On fera plein de choses pour lui, mais le but, c'est qu'il soit à notre service. Alors que la foi en l'évangile a pour but notre service pour Dieu. Hein, le but de la religion, c'est que Dieu soit à notre service, alors que la foi en l'évangile a pour but notre service pour Dieu. Ou autrement dit, la tragédie de la religion faite par l'homme est toujours de réduire Dieu. La religion, c'est toujours réduire Dieu en quelqu'un que l'on peut contrôler. Ça, c'est la tragédie de la religion. Réduire Dieu en quelqu'un que l'on peut contrôler. Au lieu de voir que Dieu est celui qui est au contrôle et qui mérite notre adoration selon ses critères. Ne soyons donc pas comme la maison de Mica, qui a tout perdu d'ailleurs. Un jour, tout est pris. Et les dieux censés protéger Mica sont enlevés. Et c'est lui qui cherche à aller les protéger, si vous voulez. À les sauver, à les récupérer. Ces faux dieux ne peuvent rien. C'est de l'argent volé fondu. Mais l'histoire de la maison de Mica nous donne un espoir. Son idole lui a été enlevée pendant sa vie. S'il est difficile pour lui de vivre ce dépouillement, c'est la voie du salut s'il revient réellement à l'Éternel. Si Mica revient à son roi divin par la repentance, à qui il obéit, de qui il reçoit la protection et entretien, à qui il se confie, sur qui il compte pour accomplir ce que le roi demande, Mica trouvera une joie, une paix, une assurance que personne ne pourra lui enlever. Personne. Personne ne peut enlever le Dieu puissant, saint, juste et bon. C'est pas possible. C'est pour ça que dans Romains 8, il dit « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien !» Il n'y a pas de tribu d'Anite qui peut venir nous enlever Dieu. Ce n'est pas possible. Et nous, quelle idole Dieu doit-il enlever pour que nous nous tournions totalement vers notre roi Jésus-Christ, le souverain au-dessus de toute domination? Quelle idole doit-il enlever de notre vie pour qu'on se tourne totalement vers Christ? Suis-je de la maison de Mica, ami de l'argent et superstitieux? Ou suis-je de la maison du roi Jésus-Christ, ami de la générosité et de la confiance active en son œuvre, le prenant pour exemple et référence? De quelle maison est-ce que je suis? Le deuxième personnage que nous rencontrons va nous montrer l'opportunisme égoïste qui détourne du roi. Rappelons-nous, tout le récit est là pour nous illustrer ce que signifie faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc ce deuxième point, l'opportunisme égoïste détourne du roi. Alors, quelqu'un qui se conduit avec opportunisme, si je vous demande une définition, c'est quoi? Eh bien, c'est quelqu'un qui adopte une attitude consistant à modifier son comportement selon les circonstances de manière à en tirer avantage. C'est ça, en fait, une conduite opportuniste. C'est quelqu'un qui adopte une attitude consistant à modifier son comportement selon les circonstances de manière à en tirer avantage. Ça, on comprend ce terme. Le Lévite ne vit que pour lui-même et utilise les situations à son avantage. En fait, il n'a pas de roi. C'est lui le roi. Mais il a usurpé cette place. Parce que ce n'est pas lui qui s'est donné la vie. Ce n'est pas lui qui s'est mis dans la tribu Lévite. Ce n'est même pas lui qui s'est mis comme étant le petit-fils de Moïse. C'est Dieu, le véritable roi, légitime. Et les trois questions posées par les Danites aux Lévites, au chapitre 18, au verset 3, vont nous aider à connaître ce personnage, ses motivations et ses manquements. Regardez avec moi le verset 3 du chapitre 18. Comme ils étaient près de la maison de Mica, ils remarquèrent la voix du jeune homme Lévite, firent un détour et lui dirent, voici les trois questions. Qui t'a amené ici? Que fais-tu dans ce lieu? Et qu'as-tu à y faire? Trois questions. Alors si le Lévite avait joué son vrai rôle spirituel, la première chose qu'il aurait fait, il aurait retourné la question aux Danites. Donc, qui vous a amené ici? Que faites-vous en ces lieux? Et qu'avez-vous à y faire? Et si les Danites avaient répondu honnêtement, ils auraient dit, eh bien, qui nous a amené ici? C'est la tribu de Dan qui nous a envoyés. Qu'est-ce que nous faisons ici? Nous sommes venus passer la nuit ici. Et qu'avons-nous à y faire? Nous sommes venus espionner pour trouver un lieu où nous pouvons habiter et que nous pouvons prendre comme héritage pour nous. Et là, le Lévite aurait dû reprendre les Danites, comme il aurait dû reprendre Mica s'il était au service du roi divin. Mais comme il faisait comme s'il n'y avait pas de roi, il n'y a pas de roi en Israël. Mais il aurait dû reprendre les Danites, comme il aurait dû reprendre Mika s'il était au service du roi divin. Et pour la première question, il aurait dû dire, mais vous devez aller où l'Éternel vous envoie. Pas où les Danites vous envoient. Où le roi vous envoie. Deuxième question, il leur dirait, vous ne devriez pas séjourner dans la maison de cet apostat de Mika, qui devrait être lapidé pour avoir des idoles, selon l'ordre du roi divin. Et troisièmement, vous ne devez pas espionner pour trouver un pays. Allez prendre possession du pays que Dieu, le divin roi, vous a donné. Et pour lui-même, il aurait dû pouvoir répondre, comme un fidèle serviteur au service du roi divin, à ces trois questions. L'Éternel m'a envoyé ici, je suis sous les ordres du roi. Deuxième question, j'instruis les gens de cette maison à suivre les instructions de l'Éternel. Et troisièmement, je poursuis fidèlement ma charge de lévite dans l'enseignement de la loi de Dieu et le service du sanctuaire qui se trouve à Silo. Voilà ce qu'il aurait dû pouvoir répondre. Mais non, le lévite répond ainsi. C'est le verset suivant. Mika a fait pour moi telle ou telle chose. Qu'est-ce qui t'a amené ici? C'est l'opportunisme. Il me donne un salaire. Que fais-tu ici? Je me fais de l'argent sur le dos de la superstition de cet homme. Et qu'as-tu à y faire? Je suis devenu son sacrificateur. Qu'as-tu à y faire? J'ai acquis un rang d'honneur dans cette maison. Voilà ce qu'il répond. Et le lévite ne reste pas là. Les hôtes, positivement impressionnés par ses réponses, lui demandent de consulter l'Éternel pour eux. Un sacrificateur, on lui demande de consulter l'Éternel. Le voilà flatté à son tour, et il répond au nom de l'Éternel. Bon, il y a un petit jeu avec les termes Dieu ici, hein, parce que les Danites, ils disent d'aller consulter Dieu en utilisant le terme Elohim, c'est un terme plus générique pour Dieu. Mais lui va répondre avec le terme Yahvé, le Dieu de l'Alliance. Et il leur dit qu'ils peuvent aller en paix. Aller en paix. Et ensuite, il ne prend pas de risque hein, dans ce qu'il dit. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte. Il ne prend pas de risque. Il dit simplement, l'Éternel sera avec vous, vous irez. Et comme ça, si ça ne marche pas, il pourra dire, ben, il est avec vous, mais il n'a pas voulu vous donner. Et puis si ça marche, ben, il aura dit, ben, je vous avais dit qu'il est avec vous. Ça fait tellement penser à ceux qui disent à ceux qui ne guérissent pas, mais tout problème, c'est ta foi. Et les Danites, de leur côté, entendent ce qu'ils veulent entendre. Ils entendent ce qu'ils veulent entendre. Et ils sont contents. Et ils sont si contents que lorsqu'ils reviennent, ils vont prendre le Lévite avec eux. Imaginez un homme qui nous dit ce qu'on veut entendre. Prends avec nous. Et lorsque le Lévite comprend qu'il gagne en honneur et en profit en allant avec les Danites, il n'hésite pas à trahir son bienfaiteur et à le voler pour partir joyeusement avec ceux qui lui font de meilleures promesses. Vous imaginez? Lorsque le Lévite comprend qu'il gagne en honneur et en profit, il n'hésite pas à trahir son bienfaiteur et à voler pour partir joyeusement avec ceux qui lui font de meilleures promesses. Ce qui est un peu dérangeant dans cette histoire, c'est qu'humainement, tout semble réussir à ce Lévite. Tout semble réussir. Ce qui nous indique que la réussite selon l'homme n'est pas un indicateur de la bénédiction de Dieu. La réussite selon l'homme n'est pas un indicateur de la bénédiction de Dieu. Si vous voulez un indicateur, je vais vous en donner un. C'est une personne toujours plus semblable à Christ. Ça, c'est un indicateur qui montre la bénédiction de Dieu. Mais ce n'est pas la réussite à vue humaine. Quelle tragédie lorsque les responsables spirituels agissent par intérêt, comme ce Lévite. Pierre l'enseigne bien clairement en disant dans 1 Pierre 5, les versets 1 à 4, « J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. Non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de gloire. » C'est tout l'inverse du Lévite de Juges 18. Et le plus tragique, c'est que ce Lévite s'appelle Jonathan et qu'il avait pour grand-père Moïse, le plus grand conducteur d'Israël. Alors, il est vrai que dans bien des traductions, vous trouvez Manassé et non Moïse. Peut-être que vous avez vu dans vos textes. Puis depuis que je dis que c'est le petit-fils de Moïse, vous dites « qu'est-ce qu'il raconte ?» Alors voilà, vous avez besoin d'une petite explication. En fait, il semble que les rabbins scrupuleux de l'honneur de Moïse ont changé une lettre de le nom qui faisait ainsi plutôt assonance avec le pire roi d'Israël qu'avec le meilleur dirigeant d'Israël pour un petit-fils tel que celui que nous trouvons dans le livre des Juges. Mais pour prendre l'histoire sans la modifier, il faut donc dire Jonathan, fils de Guershom, fils de Moïse. Vous savez, ce n'est pas la situation d'un père ou d'un grand-père qui détermine la foi de son fils ou de son petit-fils. Et un commentateur dit d'ailleurs, cela prouve que Dieu n'a pas de petits-enfants. En fait, il n'a que des enfants. Comment pourrions-nous copier le Lévite ? Donc comment pourrions-nous être dans une situation qui est dangereuse, mauvaise ? Eh bien, en utilisant son ministère pour une promotion personnelle. Tout type de ministère que l'on peut vivre dans l'Église. Ou bien l'inverse, en ne vivant pas le ministère qui correspond au don que Dieu nous a donné dans l'Église, pour en fait se faire de l'argent ailleurs. C'est le même problème. Comme on ne peut peut-être pas s'en faire dans l'Église avec les dons que Dieu nous a donnés, eh bien on ne va pas les utiliser pour Dieu dans l'Église et on va se faire de l'argent ailleurs. Et concernant la tentation de s'engager pour une promotion personnelle, une question peut nous aider à déterminer si nous sommes sur cette pente glissante. On peut se poser la question, est-ce que je ferai autant, ou bien est-ce que je ferai ce que je fais pour Dieu là, avec autant de joie et d'empressement, si seulement Dieu et moi le voyaient ? Le point central de l'adoration du Lévite aurait dû être Silo, où est le tabernacle de l'Éternel. Ça, c'était le lieu central où il fallait adorer Dieu. Où est le tabernacle aujourd'hui ? Moi, j'aime bien Jean quand il dit que la parole a été faite chair et il a tabernaclé parmi nous. C'est le terme utilisé dans l'Évangile. Et en fait, c'est la parole devenue chair qui a tabernaclé parmi nous. Qui est notre tabernacle ? C'est Jésus-Christ, en fait, notre tabernacle. Et quelqu'un a dit, si nous ne centrons pas nos vies sur Jésus, si nous ne centrons pas nos vies sur Jésus comme le chemin pour approcher, adorer, connaître et vivre avec Dieu, nous centrons nos vies sur des religions d'hommes, sur une idole ou sur quelque chose qui ne peut pas nous bénir. Si nous ne centrons pas nos vies sur Jésus comme le chemin pour approcher, adorer, connaître et vivre avec Dieu, nous centrons nos vies sur des religions d'hommes, sur une idole ou quelque chose qui ne peut pas nous bénir. Or, si la famille de Mica, si le Lévite, par leur contre-exemple, nous ont déjà enseigné, la tribu de Dan va encore plus loin. Troisième point, la lâcheté et la recherche de la facilité détournent du roi. Le récit de la tribu de Dan, on peut la voir comme une parodie de la conquête. Le récit de la tribu de Dan est une parodie de la conquête de Canaan. Une parodie, c'est une contrefaçon ridicule. Et ici, vécue par une tribu lâche et à la recherche de facilité. Le peuple hébreu est sorti de là où il était opprimé, de l'Égypte, appelé par Dieu, délivré par lui. Souvenez, la parodie d'Anite nous montre un peuple qui prend l'initiative de se dégager de ses oppresseurs en fuyant discrètement par ses forces du lieu où Dieu les a placés. Le peuple hébreu rencontre Dieu au mont Sinaï où il indique qu'il les a choisis. Il leur donne les prêtres et lui indique ce que contiendra le sanctuaire où il sera adoré. La parodie d'Anite nous montre un peuple qui rencontre son Dieu au mont Éphraïm. C'est le peuple qui choisit son Dieu, son prêtre et les fournitures pour le sanctuaire. Le peuple hébreu envoie des espions avant d'entrer dans le pays promis. Et puis, devant Jéricho, où ils vont chez une prostituée, ils reviennent en disant que la ville est fortifiée, mais l'Éternel a livré le pays, car les gens tremblaient et savaient que Dieu allait livrer le pays. Souvenez, avec Josué. La parodie d'Anite nous montre un peuple qui envoie des espions qui vont aussi dans une maison de prostituée. Prostitution spirituelle dans ce cas. Et ils vont demander là la volonté de Dieu, alors qu'ils la connaissaient déjà. Et un homme leur dit « Allez en paix ». Les gens de Laïs, par contre, ne tremblent pas et ne se doutent pas du malheur qui les attend. Le peuple hébreu est entré dans le pays promis, autorisé par Dieu. Et ils y montent le tabernacle à Silo, et les lévites et sacrificateurs officient selon les ordonnances de Dieu. La parodie d'Anite entre dans un pays non promis par Dieu et choisit eux-mêmes pour la facilité qu'il offre. Et ils y dressent la statue qu'avait fait Mika, et le petit-fils de Moïse, qui n'est pas descendant d'Aaron, devient le sacrificateur. Ce qui est troublant avec la parodie d'Anite, c'est que tout semble à nouveau réussir à vue humaine. Tout semble réussir à vue humaine. Il n'y a pas de coup de tonnerre ou de terre qui s'ouvre. Tout ce qui réussit à vue humaine ne vient pas forcément de Dieu. Nous voyons d'ailleurs dans ce récit l'origine profonde de l'idolâtrie à Dan, qui plus tard, du temps de Jéroboam, sera choisie comme un haut lieu d'idolâtrie jusqu'à la déportation en Assyrie. C'est là qu'il y aura le culte du veau d'or. Peut-être ça vous dit quelque chose. Cette parodie d'Anite est basée sur le rejet de l'Éternel comme roi. Par lâcheté, ils ne conquièrent pas le territoire que le roi leur a donné. Par recherche de facilité, ils se détournent du roi pour aller voir ailleurs. Ce que Dieu a dit ne me plaît pas, je vais voir ailleurs. Et en plus, je vais demander que Dieu me guide. Hein? Cette parodie nous avertit de ne pas vivre la parodie chrétienne. La parodie chrétienne, c'est croire que l'on peut et veut sortir de l'esclavage du péché par nos propres forces. C'est croire qu'on peut sortir de l'esclavage du péché par nos propres forces en changeant peut-être quelques habitudes. C'est façonner Dieu à sa convenance. Hein, façonner Dieu à sa convenance. Choisir soi-même la façon d'adorer avec les moyens qui nous semblent bons. C'est chercher la volonté de Dieu lorsque celle qui est révélée par sa parole ne nous convient pas. On reçoit une parole parole révélée. Elle ne nous convient pas. Alors on va chercher la volonté de Dieu. C'est une parodie chrétienne. C'est vivre des cultes selon les intérêts de la culture ambiante. Voilà la parodie chrétienne. Fuyons cette parodie. Et entrons dans le merveilleux message de l'Évangile qui nous dit que Jésus-Christ est venu dans le monde chercher et sauver ceux qui étaient perdus, esclaves du péché. C'est pas par nos forces. C'est Jésus-Christ qui est venu sauver et chercher ceux qui étaient perdus. Jésus-Christ ne cherche pas simplement à changer nos habitudes ou nos attitudes. Il nous donne une nature nouvelle. Jésus-Christ nous présente le Dieu de la Bible sans ajout ni retrait. Il est infini et irreprésentable. Tout-puissant et indépendant. Nous n'avons pas à l'inventer, mais à apprendre à le connaître par sa révélation. Nous ne choisissons ni qui il est, ni comment il est, mais nous l'acceptons tel qu'il est et cherchons à nous conformer à lui. Jésus-Christ est notre sanctuaire. Il n'y a pas d'autre moyen que lui pour nous approcher de Dieu. Jésus-Christ est notre sanctuaire. Il n'y a pas d'autre moyen que lui pour nous approcher de Dieu. Il se manifeste visiblement par son corps qui est l'Église et pour laquelle il a donné des instructions simples et claires que nous voulons suivre. Jésus-Christ a toujours accompli la volonté de Dieu, même si cela lui a été difficile. Nous voulons faire de même en sachant que, ultimement, tout ce qu'il demande est excellent pour nous. Comme pour Christ, qui a été élevé en gloire après la croix. En conclusion, rappelons-nous que cet appendice dans Juges 17 et 18 a été écrit pour nous montrer ce que signifie faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel dans le domaine religieux. Rappelons-nous que la racine du mal, selon l'auteur de l'Écriture sainte, est de vivre sans roi divin et faire ce qui est bon à ses propres yeux. Si Jésus-Christ est notre roi, si Jésus-Christ est roi sur notre vie, nous ne cherchons pas à trouver nous-mêmes comment l'adorer, comment vivre notre vie, comment suivre sa volonté. En fait, nous cherchons à comprendre sa parole qu'il nous a révélée et nous mettons en pratique ce qu'il nous demande. Parce que nous avons compris que être sauvé par Christ, c'est lui appartenir, c'est pleinement apprécier et profiter des bienfaits de l'Évangile, c'est comprendre que faire ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, ce n'est pas faire ce qui est bon, ce qui nous semble bon sans le roi, mais c'est faire ce qui est bon selon le roi Tout-Puissant. Il est dit dans 1 Jean 5 qu'on a lu tout à l'heure, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu » et qui nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est écrit dans le Nouveau Testament, écoutez bien, petits enfants, prenez garde des idoles. Ce pourrait être le résumé de l'application de Juges 17-18. Reconnaissez votre roi Jésus-Christ qui est Dieu, et gardez-vous des idoles. Et pour se garder des idoles, il est bon et utile de revenir constamment à Dieu en se rappelant les paroles du psalmiste et en réfléchissant si nous pouvons les dire de tout notre cœur. Regardez avec moi le psaume 73. Prenez vos Bibles et ouvrez-les dans le psaume 73. Et en lisant ce texte, de vous dire, est-ce que je peux dire ça de tout mon cœur? Est-ce que c'est une réalité qui se manifeste aussi dans ma vie, dans ma façon de vivre? Psaume 73, versets 23 à 26. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Et ma prière, c'est que nous puissions dire cela de tout notre cœur, parce que nous voulons vivre selon ce que notre roi désire. Et cette semaine, vais-je faire ce qui me semble bon sans le roi, ou vais-je agir selon ce qu'il pense qui est bien? Une question qu'on peut se poser à chaque instant. Est-ce bon selon mon roi Jésus-Christ? Est-ce bon selon mon roi Jésus-Christ? Et est-ce que je pourrais dire, en ce temps-là, quand je réfléchirai à au jour passé, en ce temps-là, Jésus-Christ agissait en roi dans ma vie, je faisais ce qui lui semblait bon. En ce temps-là, Jésus-Christ agissait en roi dans ma vie, je faisais ce qu'il lui semblait bon. Nous allons prier. Éternel, lorsque nous prenons quelques instants pour réfléchir à ce qui a été écrit pour décrire ce qui est mal à tes yeux, nous ne pouvons que trembler. Cela paraît si terrible et en même temps si proche de ce que nous pouvons vivre. Seigneur, nous te prions ce matin, non pas de repousser ces parties de ta parole, mais plutôt de les recevoir comme des encouragements à venir vers toi et à nous détourner d'une façon de vivre qui est selon notre bon vouloir, mais que Seigneur, nous désirions vivre selon ton bon vouloir. Jean-Baptiste disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est une autre façon de dire qu'il faut que de plus en plus je vive selon toi et de moins en moins selon mes idées. Seigneur, ce n'est pas populaire dans notre monde, mais c'est tellement libérateur. Et j'aimerais te prier que nous puissions le saisir parce que qui d'autre que toi peut réellement nous guider sur le chemin de la vie? L'apôtre Pierre disait à Jésus-Christ, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Eh bien, Seigneur, c'est vrai. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et nous en sommes tellement reconnaissants et nous te remercions parce que si nous vivons selon toi, nous nous éloignons de ces chapitres 17 et 18 du livre des juges. Nous nous éloignons de la famille de Mica. Nous nous éloignons de ce Lévite infidèle. Nous nous éloignons de cette tribu de Dan. Seigneur, garde-nous proches de Jésus-Christ. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.